Vous écoutez Europe 1, il est midi et demi.
Europe Midi Weekend.
Raphaël Delvolvé.
Bonjour à tous. Près de 100 000 supporters de Liverpool et du Real Madrid dans Paris. Finale de la Ligue des Champions ce soir au Stade de France. Tout le monde ne pourra pas entrer dans l'enceinte. Des fan zones sont installées dans Paris et de nombreux policiers sont mobilisés. Europe 1 est au plus près de l'événement. Combattre des fusillades en armant la population. Voici la méthode Trump pour lutter contre les tueries comme celle qui a traumatisé l'Amérique il y a 4 jours dans une école du Texas. L'ancien président s'est exprimé hier au congrès de la NRA organisé dans le même état que la tuerie ce week-end. Et puis à suivre dans Europe Midi, la politique en France, les élections législatives, la guerre, Rassemblement National, reconquête dans le Sud. Les Français prennent l'air en ce week-end de l'Ascension. Et puis évidemment, Roland Garros, Europe 1 radio officielle. 3 Français attendus de pied ferme sur les cours aujourd'hui. Alizé Cornet, Gilles Simon et le chouchou Hugo Gaston. Léolia Jean-Jean a déjà commencé son 3e tour. C'est très mal embarqué pour elle face à la Roumaine Begu. Mais ça n'est pas terminé. Elle a sauvé 3 balles de match. Nous appellerons la porte d'Auteuil tout à l'heure. La tendance météo, Valérie Darmon.
Temps sec et bien ensoleillé avec des températures en hausse, des maximales contrastées entre 16 au Havre et 32 à Toulon, valeurs un peu trop fraîches de 2 à 3 degrés en dessous des normales au nord et au-dessus au sud.
Merci Valérie, météo complète tout à l'heure.
Europe 1.
Si vous habitez Paris et sa région, vous les avez forcément vus. Ils sont un maillot rouge, soit un maillot blanc. 100 000 supporters, soit de Liverpool, soit du Real Madrid, sont présents en région parisienne. Le Stade de France Saint-Denis accueille ce soir la finale de la Ligue des Champions de football. Finale qui devait initialement se disputer à Saint-Pétersbourg, mais délocalisée en raison de la guerre en Ukraine. Des fans espagnols et anglais dans les rues de Paris donc. Thibaut Hu, vous êtes à côté de la fan zone dédiée aux supporters de Liverpool. Elle se situe dans le 12e arrondissement de Paris. Vous confirmez, les supporters sont là?
Oui, tout à fait, Raphaël. Ici, on ne voit que des maillots rouges, des drapeaux et des écharpes. Ils sont déjà plusieurs centaines à attendre que la fan zone ouvre ses portes. Alors pour patienter, eh bien, les supporters se sont installés à toutes les terrasses de café du quartier. Et parmi eux, j'ai croisé Jack, venu de Liverpool. Et depuis 8h30 ce matin, il boit des bières et il ne parle que du match.
C'est la Ligue des Champions, c'est la crème de la crème. C'est la plus grosse compétition que tout le monde rêve de gagner. On l'a gagnée 6 fois et ce soir, on gagnera notre 7e titre. Je pense que l'on veut gagner. Peut-être des pénalties, ce sera un match serré. On n'a peur de personne, ayez peur de nous, mais on ne craint pas Benzema.
Voilà, beaucoup d'excitation, de tension, mais pas pour Tony, un supporter norvégien.
Ce n'est jamais facile une finale contre le Real Madrid, mais je pense qu'on a assez de qualité pour les battre. C'est important de ne pas être nerveux, parce que ce qui va arriver, je suis confiant, on va le faire.
Voilà, ces fans des Reds ne seront donc pas au Stade de France ce soir, mais peu importe, le match c'est aussi un bon prétexte pour voyager.
J'aime les Français, j'aime Paris. Je suis venu ici quelques fois, alors je n'ai pas hésité. Même si je n'ai pas de ticket pour le match, je vais juste profiter de la ville. Et on va gagner le trophée et laisser Paris en folie.
Alors tous bien sûr espèrent pouvoir faire la fête ce soir, célébrer une victoire. Et l'ambiance ici est de plus en plus électrique, vous l'entendez derrière moi avec déjà quelques chants de supporters.
Eh oui, la température monte tout doucement. Merci Thibaut Hu. Forcément, 100 000 supporters, dont une partie non négligeable, ne devrait pas boire que de l'eau d'ici le coup d'envoi, voire le coup de sifflet final. Ça pose évidemment d'importantes questions de sécurité. 7 000 policiers, gendarmes, pompiers sont mobilisés et un imposant dispositif est déployé à Paris ce soir. Écoutez Grégory Joron, il est secrétaire général du syndicat SGP Police.
Il y aura 7 ou 8 forces mobiles autour du Stade de France, plus des effectifs locaux qui vont en effet ceinturer le stade quasiment 1 km autour, pour éviter justement à ce que tous ces supporters sans billets puissent accéder quasiment aux portes et finalement mettre une pression sur les stadiers ou faire en sorte qu'on puisse être débordé sur place. Donc en fait, l'idée c'est de filtrer bien en amont, de mettre cette ceinture autour du stade avec un dispositif assez conséquent, encore une fois quasiment d'une dizaine de forces mobiles, ne serait-ce que pour encadrer cette partie-là. Ça reste un dispositif somme toute assez conséquent, mais l'enjeu le mérite, j'ai envie de dire, c'est limite... un test match pour aussi ce qui peut nous attendre en 2024 pour les Jeux Olympiques, à savoir pouvoir encadrer des éléments d'ampleur comme ça, qui regroupent énormément de personnes.
Grégory Joron du syndicat SGP Police au micro de Guillaume Dominguez. Alors une finale de Ligue des Champions, c'est la ferveur des supporters, la fête, mais aussi, et j'ai envie de dire, évidemment un enjeu sportif colossal. La Ligue des Champions, on ne peut pas mieux faire en termes de prestige pour une compétition de club. Nous sommes avec Juan José Dorado, spécialiste du foot espagnol sur Europe 1. Buenos días, señor.
Buenos días a todos.
Alors, 19 Ligue des Champions seront sur le terrain ce soir, 13 pour le Real Madrid, 6 pour Liverpool, deux grands clubs s'affrontent. Vous avez un favori dans les deux, Juan José ?
Alors, si je vous dis le Real Madrid, vous n'êtes pas du tout surpris. Mais vous comprenez bien, pas parce que je suis espagnol, mais parce que le Real a été élu le meilleur club du XXe siècle et il pourrait devenir le meilleur club du XXIe siècle aussi.
Donc, à votre avis, le Real Madrid est favori ce soir face à Liverpool ?
Non, il n'est pas favori, mais le Real est très beau, justement, quand il n'est pas favori. Et puis, vous avez vu, le Real Madrid en finale, c'est un survivant, c'est un rescapé, c'est un miraculé, c'est quelqu'un qui aurait dû être éliminé par le PSG, par Chelsea et par City. Ah ben non, c'est lui qui est en finale aujourd'hui, comme il l'a été à 5 reprises lors des 8 dernières finales.
Voilà, ces victoires comme ça décrochées de façon assez incroyable, donc sur tout le long du parcours de la C1, ça va les galvaniser selon vous?
Ça va les galvaniser parce que ils savent qu'ils sont pas favoris, comme ils l'étaient pas non plus déjà en 2014 avec Ancelotti à Lisbonne face à l'Atlético de Madrid, où ils ont réussi à aller en prolongation et remporter cette finale face à l'Atlético de Madrid. Donc Ancelotti disait hier soir justement, je suis tranquille parce que je vois mes joueurs qu'ils sont tranquilles, qu'ils sont sereins. Et ça c'est important donc pour jouer cette finale. La 14e, c'est quand même assez important pour le Real.
Oui, et puis ils ont un atout majeur, le Real Madrid, on ne le présente plus. Hein. C'est évidemment Karim Benzema qui a peut-être jamais été aussi bon de toute sa carrière.
Karim Benzema, vous avez ses 21 titres avec le Real Madrid depuis qu'il est arrivé en 2009 du côté de Madrid. Peut-être le 22e. C'est le meilleur buteur de la Liga espagnole cette année. C'est le 12e meilleur buteur du Real dans l'histoire du Real derrière Cristiano Ronaldo. Et peut-être faut-il vous le dire, c'est le meilleur buteur français de l'histoire devant les Platini, devant Zidane, devant Thierry Henry. Eh oui, ben c'est lui, et ben il est à Madrid.
Mais Juan José, dans le camp d'en face, il y a aussi des atouts hein, du côté de Liverpool.
Bien sûr, et surtout Liverpool, c'est le favori parce que bon, ils avaient perdu cette finale.
Liverpool favori pour vous, hein, voilà.
Ils sont favoris, ils sont sur le papier, mais c'est normal. Il y a deux raisons. D'abord, parce qu'ils ont fait une superbe saison, ils n'ont pas été champions dès la première ligue jusqu'à la dernière minute. Ça peut les desservir parce qu'ils ont dû maintenir un effort physique et mental énorme, ce qui n'est pas le cas du Real Madrid qui depuis 3 semaines est déjà champion d'Espagne. Mais c'est vrai que Liverpool a peut-être en sa tête ce qui s'est passé en 2018 à Kiev, où ils avaient perdu cette finale face au Real. C'était la 13e pour le Real et c'était 3-1 à la fin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Liverpool qui est favori. Mais attention, il ne faut jamais enterrer le Real.
Un pronostic très brièvement.
Alors ça va être...
Un pronostic très brièvement.
2-1.
Pour le Real Madrid.
Le Real Madrid.
D'accord, merci Juan José Dorado qu'on retrouvera ce soir, spécialiste du foot espagnol pour Europe 1. La finale est à vivre sur notre antenne dès 20h.
Europe Midi Weekend.
Raphaël Delvolvé.
L'actualité de la nuit, c'est aux États-Unis, le congrès de la National Rifle Association, la NRA, le puissant lobby des armes, s'est réuni au Texas à Houston. Congrès sous vive tension, 4 jours après la tuerie de l'école Uvalde, c'est également au Texas. Il y avait des manifestations contre les armes devant le complexe où se tient le congrès. Et à l'intérieur, un invité remarqué comme souvent, l'ancien président Donald Trump. Correspondance d'Aviva Fried pour Europe 1.
Honte à vous, crient les manifestants rassemblés à Houston en réponse au congrès de la NRA. Il fait 35 degrés ici, mais cela n'a pas dissuadé les centaines de personnes qui sont là. Bambi Brown est venue en mémoire de Kimberly, une petite fille tuée il y a 4 ans dans le massacre d'une autre école du Texas.
Je pensais qu'on aurait fait quelque chose depuis le temps. Rien n'a été fait. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal à l'âme que des enfants continuent de mourir.
La police tient à distance les deux camps. La tension est vive. À chaque fois qu'un membre de la NRA sort du centre de congrès, les manifestants le huent.
Donald J. Trump.
Pendant ce temps à l'intérieur, la star du show, c'est Donald Trump. Après avoir lu le nom des victimes de la tuerie d'Uvalde,
Aletha Ramirez.
Il multiplie les attaques contre les démocrates et Joe Biden. Des contre-vérités assénées pour séduire son auditoire.
Il paraît que l'administration Biden envisage de livrer la responsabilité de votre deuxième amendement à des bureaucrates de l'ONU.
les armes à feu comme argument électoral, une politisation qui empêche toute vraie réforme. À Houston, à Aviva Fried, Europe 1.
Et puis 4 jours après la tuerie qui a fait 22 morts, je vous le rappelle, des témoignages de survivants, le média américain CNN a notamment recueilli celui d'une jeune fille de 11 ans. Elle s'est enduite de sang pour échapper au tireur. Et puis je vous rappelle que le président Joe Biden est attendu demain à Uvalde, au Texas. Nous y reviendrons bien évidemment sur Europe 1. À l'international toujours, la guerre en Ukraine et cette conquête de l'armée russe. Moscou confirme s'être emparée ce matin de la ville de Liman dans l'Est. C'est une ville stratégique, elle est au carrefour de deux grandes localités. Sloviansk et Kramatorsk. Restez avec nous, l'actualité politique après une courte pause, la campagne des législatives continue. Nous irons voir Éric Zemmour dans le Var, encore ce matin. Il va dans le Vaucluse cet après-midi. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi Weekend.
Raphaël Delvolvé.
De retour dans Europe Midi, dans 2 semaines, nous votons le premier tour des élections législatives le 12 juin prochain. Forcément, la campagne s'accélère encore ce week-end. Comme elle s'y était engagée, la première ministre et candidate Elisabeth Borne est dans le Calvados en Normandie encore aujourd'hui. Et puis dans le Sud, Éric Zemmour continue à faire les marchés dans la circonscription du Var où il est candidat. D'autant que les rivaux du Rassemblement National lui font de l'ombre. Hier, le président du RN, Jordan Bardella, est venu au soutien de son candidat opposé à Éric Zemmour dans la 4e circonscription du Var. Victor Chabert a suivi ce match à distance pour Europe 1.
Alors, je suis venu aujourd'hui soutenir Philippe Lothiaux, qui est notre candidat.
Un soleil de plomb sur le marché de Sainte-Maxime. Jordan Bardella est accompagné de son candidat, Philippe Lothiaux, qui fait notamment face à Éric Zemmour. Pour le président du RN, le fondateur de Reconquête crée de la division dans une circonscription où le parti de Marine Le Pen fait de gros scores.
Je respecte Éric Zemmour, mais je regrette qu'il vienne participer d'une forme de division. Parce que la vérité, c'est que s'il n'y a pas de candidat Reconquête dans beaucoup de circonscriptions, nos candidats arrivent en tête dès le premier tour.
Cette visite de Jordan Bardella ne passe pas chez Reconquête. Quelques heures plus tard, Éric Zemmour, en campagne dans l'arrière-pays varois, répond à Jordan Bardella en exclusivité au micro d'Europe 1.
Je remarque que Jordan Bardella, en tant que président du Rassemblement National, ne trouve qu'une seule chose à faire, c'est venir me combattre moi, alors qu'il pourrait affronter les sortants de la majorité d'Emmanuel Macron ou les candidats de Jean-Luc Mélenchon et de ses alliés.
La bataille fait rage dans cette circonscription, mais Éric Zemmour et Jordan Bardella sont d'accord sur un point. Celui qui sera devant le soir du premier tour devra rassembler.
Reportage de Victor Chabert. Et cet après-midi, Éric Zemmour est dans le Vaucluse, à l'instar de Jordan Bardella hier. Il vient soutenir un candidat Reconquête, le jeune Stanislas Rigaud. Voilà, la campagne des législatives suit son cours. Des scrutins qui ne passionnent pas forcément les Français, selon un sondage IFOP pour le JDD publié cette semaine. 52% des Français envisagent de ne pas aller voter le 12 juin prochain. Après, les Français ont peut-être la tête à autre chose. En tout cas, cette semaine, c'est le pont de l'Ascension. Le seul week-end prolongé du mois de mai, les jours fériés sont tombés un dimanche cette année. Et l'occasion est trop belle, trop précieuse pour aller voir la mer, même s'il y a de la grisaille. Reportage à Pornichet de Charles Guyard.
À l'entrée du marché de Pornichet, Mathias ouvre les huîtres à toute allure.
Oh là, j'en ouvrais à une cinquantaine à peu près. Oh, entre midi et midi et demi, avant on n'avait pas le temps.
Ça c'est du 4.
En moyenne, ce qui est plus demandé, c'est plutôt le numéro 3.
Du 4, du 3, de la Creuse, de la Plate, bref, les huîtres partent à toute vitesse et pour cause.
Ce week-end, il y a pas mal de monde. Il y a le pont.
Un pont est même le seul de ce mois de mai, alors forcément, on en profite comme Patrick. Arrivé de Paris, il vient prendre sa dose d'iode jusqu'à dimanche.
Eh ben, écoutez, on a pris des huîtres de l'Armor Baden, des numéro 2, des grosses.
C'est quoi le programme d'ici dimanche?
C'est aller se faire plaisir, se balader, etc.
Balade, fruits de mer donc, et plage pour beaucoup. Voilà la combinaison gagnante du week-end. Florilège à la terrasse de ce café.
Nous avons fait beaucoup de vélo.
Moules frites et puis autres divertissements.
Aller à la mer.
On est en famille.
Malgré un soleil qui n'était pas radieux, nous avons passé un très très bon moment.
Et malgré un ciel un peu grisonnant, c'est vrai, le moral lui reste au beau fixe. Quant aux huîtres, avis aux amateurs, avec cette forte affluence, il ne faut pas traîner pour les acheter et surtout pour les déguster.
Une fois ouverte, si c'est mis au frigo directement, ça peut être mangé dans les 12 heures.
Pornichet, Charles Guyard, Europe 1.
Voilà, l'effet pont de l'Ascension, l'effet post-Covid aussi, hein. Plus de restrictions sanitaires cette année. Les Français respirent cette semaine et des entreprises aussi. Là encore, un effet de sortie de crise sanitaire. La compagnie de croisière Ponant retrouve ses capacités d'exploitation d'avant-crise aujourd'hui même. 100% de sa flotte sous pavillon français va opérer des croisières aux quatre coins du monde. Nous sommes avec Hervé Belaïche, directeur général adjoint de Ponant. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Alors ça y est, tous vos navires sont presque en mer.
Ça y est. Aujourd'hui, après 2 ans de crise, ça reprend. Donc le dernier navire de la flotte de la compagnie Ponant a repris ce matin. Et,
au large de l'Australie, c'est ça ?
Exactement, au large de Broome en Australie pour faire une croisière merveilleuse dans le nord du Kimberley.
Et la clientèle est au rendez-vous, elle n'est pas trop timorée. On se rappelle, vous savez, du Diamond Princess, ce navire de croisière qui avait été bloqué et où le virus avait proliféré. C'était tout début de la crise.
Alors vous avez raison. La clientèle Ponant est probablement un peu à part dans ce monde-là, puisque Ponant propose une vision un peu différente du voyage avec des navires plus petits. Des navires de petite taille, à peu près 40 fois plus petits que les navires...
C'est quoi, 200 passagers environ, c'est ça ?
Oui, exactement. 200 passagers, quand les plus gros aujourd'hui qui sortent des chantiers sont plutôt 8000 passagers. Donc c'est vraiment une vision un peu différente, avec un luxe, un raffinement inégalé en Europe. Et quelque part, je dirais, par rapport à votre question, les clients post-Covid sont d'autant plus rassurés par le protocole de Ponant. Ponant a été la compagnie de croisière au monde à reprendre après la crise. Le plus tôt en fait, alors pas avec l'intégralité de la flotte puisqu'on le voit finalement ça se fait qu'aujourd'hui, mais on a été pionniers et cocorico parce que c'est la seule compagnie française aujourd'hui de croisière et c'est la compagnie de croisière qui a été le plus à même de mettre les protocoles sanitaires au devant.
Et donc cette clientèle pas trop timorée mais qui a peut-être de nouvelles exigences, de nouvelles demandes, non ?
Alors, Les clients de Ponant, en fait, cherchent un type de voyage un peu différent. Ils sont acteurs de leur voyage avec des rencontres, avec des populations locales, des naturalistes, des conférenciers. Donc, ce qu'ils recherchent, c'est encore plus, après le Covid, encore plus de sens. Des voyages qui éveillent à la conscience du monde, qui éveillent aux enjeux de la planète, aux enjeux écologiques, bref, à la beauté du monde. Et ça, effectivement, après le Covid, c'est de plus en plus le cas. Et nous, aujourd'hui, on voit chez Ponant une augmentation du nombre de clients. On est aujourd'hui à peu près à 10% de plus que ce qu'on était avant le Covid. Donc voilà, on a encore la disponibilité pour cet été puisqu'on n'est pas encore plein. Mais c'est vrai que ça reprend et ça reprend positivement pour une compagnie comme la compagnie Ponant. Et je pense que ce type de croisière, on va dire voyager moins, mais voyager mieux avec des navires de plus petite taille, c'est ce qui a fait la réputation et la renommée de la compagnie Ponant depuis 30 ans.
Merci Hervé Belaïche d'avoir été avec nous dans Europe Midi aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la compagnie de croisière Ponant. On revient dans quelques instants avec l'actualité sportive. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Roland Garros. Restez avec nous sur Europe.
Europe Midi Weekend.
Raphaël Delvolvé.
De retour dans Europe Midi, sans plus tarder, allons à Roland Garros où Axel May nous entend. Axel, hélas, c'est terminé pour Léolia Jean-Jean.
Oui, Léolia Jean-Jean, 26 ans, 227e mondial. On pensait qu'elle pouvait faire quelque chose quand même face à Irina Begu, 31 ans, 63e joueuse mondiale. Et bien le match a été à sens unique, 6-1, 6-4, même s'il y a eu un petit frémissement dans le deuxième set où elle a réussi à breaker son adversaire, Léolia Jean-Jean. Bref, moins d'une heure et demie de jeu. Léolia Jean-Jean s'arrête au troisième tour. Elle qui a repris le tennis au haut niveau il y a un an et demi seulement, qui avait du mal à gagner sa vie. Elle a en tout cas, grâce au prize money, grâce aux primes des deux premiers matchs, assuré la fin de la saison et sans doute même la prochaine.
Merci Axel May, que l'on retrouvera tout au long de la journée sur Europe 1 pour vous faire vivre ces matchs du troisième tour aujourd'hui, porte d'Auteuil. Alors cette défaite de Léolia Jean-Jean, plus largement son parcours assez extraordinaire dans cette édition de Roland-Garros, nous allons en parler maintenant avec notre consultant de luxe pendant la quinzaine. Bonjour Cédric Pioline.
Bonjour.
On peut pas trop lui en vouloir à Léolia.
Bien sûr que non, on regrette autant qu'elle, j'imagine, que sa belle aventure se soit terminée aujourd'hui. Probablement un petit peu de nervosité. Est-ce qu'elle a été rattrapée par l'enjeu en se disant que c'était possible d'accéder au 8e de finale? En tout cas, elle n'a pas été, je dirais, forcément au niveau qu'elle nous a montré sur les deux premiers matchs et c'est bien dommage.
Alors, 4 chances françaises au total aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 donc. Chez les dames, Alizé Cornet va affronter la chinoise Zheng. Chez les garçons, Gilles Simon, qui dispute son dernier Roland-Garros, affronte Marin Cilic. Et enfin, Hugo Gaston, qui affronte le Danois Rune ce soir en night session. Quelles sont les chances des Français de passer en 8e de finale aujourd'hui, Cédric ?
Bah écoutez, on n'en a plus que 3 sur 4 maintenant, mais je dirais que les 3 matchs que vous venez de citer, chaque Français et la petite Française aussi, ils ont leur chance tout à fait contre ce genre de joueurs. Il n'y a rien d'insurmontable, évidemment, avec des choses qui sont un petit peu différentes, entre notamment un Gilles Simon qui peut-être, j'espère que physiquement, il va tenir l'enchaînement pour jouer son troisième match. Gaston, évidemment, qui a la jeunesse pour lui et qui joue par contre quelqu'un d'encore plus jeune, puisque Roun a 19 ans et monte assez fort. Et puis Alizé, qu'elle continue à se bagarrer, à surfer sur cette belle vague. Et j'espère qu'il y en aura au moins un, si ce n'est deux, qui vont accéder au 8e de finale.
Et on suivra ça de près. Merci Cédric Pioli, notre consultant tennis pendant la quinzaine de Roland-Garros, Europe 1 radio officielle du Grand Chelem parisien.
Roland-Garros 2022.
L'événement tennis est sur Europe 1.
Voilà, Roland-Garros, la Ligue des champions de foot à Paris, ça nous ferait presque oublier l'autre grande finale du jour, également en France, à Marseille, la finale de la Coupe d'Europe de rugby. La Rochelle au défi des Irlandais de Leinster, c'est aujourd'hui à 17h45. C'est en fin d'après-midi, mais la fête a déjà commencé dans la cité phocéenne, Stéphane Burgat.
Oui, le Vieux-Port qui a déborde de maillots jaunes et noirs, les couleurs des bagnards, les couleurs des maritimes du stade Rochelet. Et encore, tout le monde n'est pas arrivé. Les hôtels marseillais affichent complet depuis longtemps déjà et beaucoup vont donc arriver à la mi-journée après une très longue route. Mais pour les autres comme Romain, eh bien on savoure déjà, on profite de l'ambiance.
Ça va être fantastique, quoi. Il va y avoir une super ambiance. Là, quand on voit sur le Vieux-Port le nombre de Rochelets qu'il y a, c'est impressionnant. On en a autant qu'à la Rochelle. Donc, et il y a Ronan O'Gara qui court juste derrière vous, le coach de la Rochelle. Allez Ronan ! Ah ben c'est comme ça, hein. Et à la Rochelle, on est très proche des joueurs.
Voilà l'équipe rochelaise qui est basée dans un hôtel du Vieux-Port. Le président du club, lui aussi, y allait de sa petite balade pour faire le plein de soleil. Alors que les bars refont le plein, eux, de fûts de bière, livraison à la hâte un petit peu partout, alors que les terrasses sont assiégées et décorées, comme ici, avec les drapeaux des Maritimes en quête du premier trophée européen de leur histoire.
On est d'accord, à un moment, il faut gagner, oui.
Parce que les finales, ça va bien.
Mais il faut les gagner.
Non, non, là, on a faim, il faut gagner, là. C'est sûr, ce soir, on est champion d'Europe. Et c'est le déclic.
Ici, ici, c'est la Rochelle.
Et attention, quand même, à ces terribles Irlandais du Leinster qui ont déjà soulevé le trophée européen de la Champions Cup à 4 reprises.
Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille, La Rochelle, Leinster, coup d'envoi de la rencontre à 17h45. Et puis n'oubliez pas non plus que c'est ce soir qu'on connaîtra le nom de la Palme d'Or. C'est la fin du Festival de Cannes ce samedi. Nous vous tiendrons bien évidemment informés du palmarès. La météo, Valérie Darmon, ça tient en 3 mots-clés. Beau, chaud, estival.
Vous avez tout dit, Raphaël. Bien résumé, vos thermomètres affichent 32 aux heures les plus chaudes de l'après-midi à Toulon, 31 à Montpellier, 30 à Marseille, 29 à Nîmes, 28 à Cahors, 27 à Nice, 25 à Périgueux, 23 à Aurillac et à Nantes, à Clermont-Ferrand et Biarritz, 22 degrés, à Châteauroux et à Brest, 21, à Paris, 19 et 17 degrés à Caen. Du côté du ciel, des Hauts-de-France à la Normandie et vers les plaines d'Alsace, votre ciel est toujours un petit peu partagé entre nuages et éclaircies, mais excepté quelques petites averses près des frontières du Nord, la journée est tout à fait agréable, juste parfaite pour Roland-Garros sur la région parisienne. Sur le reste de la France, les nuages bas et les brouillards des Landes au Pays Basque se sont totalement dissipés. Le soleil a donc repris sa place au plus haut dans le ciel à moins de 3 semaines du solstice. Sur les Alpes-Maritimes et la Corse, des averses parfois orageuses se déclenchent et puis le vent de nord-nord-est qui souffle à 40 km/h sur la façade atlantique, la tramontane jusqu'à 70 en pointe et le Mistral qui se renforce jusqu'à 90 km/h.
Merci Valérie Darmon, merci à vous également de votre fidélité à Europe Midi. Cette nouvelle édition s'achève dans quelques instants. Vous retrouvez Elisabeth Morizet, elle reçoit Anthony Delon dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.